Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un meurtre non élucidé, l'affaire Calvez. Le 22 septembre 1994, au beau milieu de la lande et de la nuit, des flammes surgissent. Une voiture s'embrase sur la route côtière de Guilvinec, bourgade située au sud du pays Bigoudin dans le Finistère. Mais en dévorant la carlingue, ce sont les restes d'un corps que les flammes engloutissent. Et ce corps, c'est celui de Marie-Michèle Calvez. Elle avait 40 ans, un compagnon aimant, un travail stable dans l'assurance, des amis présents, une vie normale, banale presque. Alors, pourquoi a-t-elle brutalement pris fin à l'intérieur d'une voiture carbonisée, cette vie? Quelqu'un aurait-il pu vouloir la mort de Marie-Michèle? Et si oui, pourquoi? Et surtout, qui? Que de questions dans cette affaire qui hante encore toute une région. Car si Marie-Michèle a été assassinée, on n'a jamais retrouvé son ou ses meurtriers. Une femme sans histoire, un village tranquille, un meurtre et un coupable insaisissable. Retour sur l'une des affaires les plus anciennes et les plus énigmatiques de la chronique judiciaire française. Notre invité aujourd'hui, Yves Bordenave, journaliste judiciaire au Monde. Il a publié une enquête justement sur cette affaire Marie-Michèle Calvez, intitulée 1994, meurtre mystérieux en pays Bigoudin, publiée pendant l'été 2018 dans les pages du journal. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Chaque année en France, parmi les centaines de meurtres qui sont commis, des dizaines ne sont jamais élucidés. Et pour les médias, tous ces crimes ne se valent pas. Certains dossiers de ce genre font les gros titres, se transforment en grandes affaires médiatiques. Parce que la victime est très jeune, le coupable célèbre, ou parce que le contexte familial et social autour du crime est sinistre, ou que le mode opératoire est particulièrement abominable. Pour cela, les pouvoirs publics et l'opinion se mobilisent. Mais pour les autres, pour ces petits faits divers, qui n'ont de petit que le fait de n'être que divers, est pas suffisamment sordide ou sensationnel. Que se passe-t-il quand l'enquête piétine, que les témoins se font rares et les indices encore plus? Et quand la justice, contrainte par le temps, accaparée par de nouveaux drames, passe à autre chose, à un autre crime, sans avoir apporté de réponse? Pour les familles, l'ennemi change alors de nom, et c'est bien contre le silence et l'oubli qu'ils entrent en résistance. C'est précisément cette bataille que mène Catherine Calvez, seule depuis près de 27 ans. Imaginez, 27 ans, ce que ça représente. 27 années que cette institutrice bretonne porte la mémoire de sa sœur à bout de bras, à bout de mots, comme on porte une croix. 27 ans qu'elle se bat pour arracher des réponses qui ne viennent pas. 27 ans que le ou les meurtriers de Marie-Michèle courent toujours, depuis cette terrible nuit de septembre 1994. Les landes du Finistère Sud semblent tranquilles en cette nuit du 22 septembre 1994. Nous sommes à quelques centaines de mètres à peine de la côte, quelque part entre le port de Guilvinec et la pointe de Penmarc, au sud-ouest de Quimper. L'endroit est désert, et pendant quelques heures, personne ne remarque l'incendie. Personne ne remarque une voiture brûle. Remontons un peu plus tôt dans la soirée. Dans le port de Guilvinec, un peu après minuit, un bateau tombe en panne. L'équipage est bloqué. Quelques marins décident alors de prendre la route en direction du port de Penmarc, une dizaine de kilomètres à l'ouest. Ils espèrent y trouver un bistrot, histoire de passer le temps en attendant que le bateau soit réparé. C'est en chemin, là, sur la petite route côtière, qu'ils aperçoivent au loin un point lumineux qui cisaille l'obscurité. Une boîte de nuit, toujours ouverte? Non, c'est une voiture qui brûle. Il est 3h40 du matin. Quand les autorités arrivent, la combustion du véhicule est déjà très avancée. Un gendarme s'approche de la carcasse calcinée. Il remarque que le coffre est toujours fermé. Alors il pose sa main sur le métal encore chaud et force le mécanisme pour ouvrir l'habitacle. Et ce qu'il découvre, le glace d'effroi. C'est bien des os qu'il aperçoit au milieu des cendres et des braises. Oui, un squelette en position fœtale, complètement carbonisé, se dessine à l'arrière du véhicule entre la banquette et le coffre. Et alors que les enquêteurs réalisent qu'il ne s'agit pas d'un simple incendie, mais bien d'une scène de crime, une Renault 18 Break déboule à toute vitesse sur le chemin qui mène au site, avant de brusquement faire demi-tour à la vue des gendarmes. Mais pas assez rapidement pour les empêcher de relever les numéros de la plaque d'immatriculation. Question évidente, est-ce la voiture du coupable? Peut-être, peut-être pas. Pour le moment, il n'y a aucune certitude. Seulement l'intuition que cette affaire sera différente des autres. Il est environ 5 heures du matin quand la section de recherche de Rennes et le procureur arrivent sur le site. À 6h08, le soleil se lève sur une longue, très longue enquête. Rapidement, cette découverte macabre fait la une des médias, surtout les ondes de Radio France Bretagne-Ouest, le 22 septembre 1994.
C'est vers 3h30 la nuit dernière que des marins pêcheurs qui rentraient de mer ont repéré une voiture calcinée près de l'ancienne usine. Ils ont immédiatement alerté la gendarmerie du Guilvinec. Dans le coffre de la voiture, les gendarmes ont découvert un corps calciné. Le travail des enquêteurs s'annonce difficile. Les occupants d'une maison située près du lieu de la découverte n'ont rien vu ni rien entendu. Quant à l'identification de la victime, elle paraît particulièrement difficile. L'état du corps ne permet même pas de déterminer a priori s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Pour trouver un coupable, il faut d'abord savoir qui est la victime. Or, ici, l'identification du corps semble impossible. Il n'en reste rien. Des dents ont explosé sous l'effet de la chaleur. On ne retrouve que les os les plus épais. Et encore, ils ne sont pas entiers. Car le corps n'a pas juste brûlé, il a aussi été découpé. Les membres inférieurs sont séparés du reste du cadavre. Une fois ces restes et la dépouille retirés de la voiture, les gendarmes se concentrent sur l'origine de l'incendie. Autrement dit, comment le feu a-t-il pris? Quel mécanisme a bien pu permettre une combustion aussi puissante en à peine quelques heures? Parce que, rappelons-le, la voiture était complètement calcinée. On n'arrive pas par hasard à un tel niveau de destruction. Effectivement, le système de mise à feu est particulièrement élaboré. Les pompiers retrouvent des morceaux de cale en bois à différents endroits du véhicule, ainsi que des résidus textiles en grande quantité, en particulier sur la banquette et le puits du réservoir. Les analyses révéleront qu'ils ont été imbibés d'essence. Il n'y a qu'un élément qui n'a pas été détruit par les flammes, et il n'est pas le moins important, la plaque d'immatriculation du véhicule. Alors si l'état du corps ne permet pas encore aux enquêteurs d'identifier la victime, le ou la propriétaire ou les de la voiture peuvent certainement les y aider. Encore faudrait-il pouvoir mettre la main dessus.
Radio France Bretagne-Ouest, l'actualité.
La propriétaire de la voiture, une Seat Ibiza, a été rapidement identifiée. Il s'agit d'une habitante de Plonéour-Lanverne, âgée d'une quarantaine d'années et employée dans un cabinet d'assurance. Cette personne n'a pas reparu ni à son domicile ni à son travail. Est-elle la victime? Les gendarmes ne privilégient aucune hypothèse.
Le propriétaire de la voiture incendiée est donc une propriétaire, une femme. Elle s'appelle Marie-Michèle Calvez. Quand les pompiers découvrent sa voiture, cela fait 10 heures qu'elle a disparu. Mais pour le moment, aucun élément matériel ne prouve que le corps retrouvé est celui de la jeune femme. Alors, en attendant les résultats de l'autopsie, notamment du crâne, les enquêteurs se concentrent sur les seules informations qu'ils possèdent. L'une des premières pistes, c'est donc cette voiture qu'ils ont vue débouler en trombe sur le site de l'incendie, cette Renault 18 Break qui a fait demi-tour à toute vitesse à la vue des enquêteurs. Le propriétaire du véhicule est convoqué. Il explique avoir passé la soirée sur le port avec des marins, dont certains étaient présents dans sa voiture. Les gendarmes décident de creuser, sauf que les marins en question ont déjà repris la mer. Il faut donc trouver un moyen d'arrêter rapidement leur bateau qui navigue déjà quelque part au large de l'Écosse. Après une petite course-poursuite dans l'Atlantique Nord, l'équipage est ramené au port pour y être interrogé. Et tous confirment la version du propriétaire de la voiture. En réalité, à quelques heures de décalage, leur soirée ressemble à celle des marins qui ont découvert la voiture incendiée. Oui, ils longent la côte à la recherche d'un bar, s'approchent des lumières qu'ils aperçoivent au loin, réalisent que la police est présente et, se sachant alcoolisés, eh bien prennent peur et font immédiatement demi-tour. Bien, leur histoire est rapidement confirmée par des témoins. Cette première piste était une impasse et ça ne fait que commencer. Pendant ce temps, les médecins légistes comparent le crâne et la mâchoire retrouvés dans la voiture avec une ancienne radio faciale de la propriétaire du véhicule. Ils sont formels. Les restes du squelette retrouvés dans la voiture correspondent. Le corps découvert quelques heures auparavant est donc bien celui de Marie-Michel. Catherine Calvez vient donc de perdre sa sœur, la seule de la famille avec qui elle entretenait une vraie proximité, comme elle le raconte au micro de nos confrères de RTL.
C'était très très proche d'elle. On n'était que tous les deux, j'ai qu'une seule sœur, et on se téléphonait, on se voyait pas régulièrement, parce que moi j'habitais sur Brest, elle sur Clonéau, mais on se téléphonait facilement 3-4 fois par semaine. On se voyait dès qu'on pouvait, l'une et l'autre on travaillait, donc c'était pas forcément très facile. Le week-end parfois, plus facilement pendant les vacances scolaires, parce que moi j'étais enseignante, donc c'était plus facile pour moi de descendre la voir. Ces derniers mois, je la voyais moins, puisqu'elle était avec son compagnon, donc je ne voulais pas trop m'immiscer dans sa vie privée.
L'identification du corps fait basculer la vie de Catherine Calvez et lance véritablement l'enquête. Les gendarmes plongent alors dans la vie de cette femme. Car pour découvrir qui a tué Marie-Michel Calvez, il faut d'abord comprendre qui elle était. Au moment des faits, Marie-Michel a 40 ans. C'est une belle femme, brune, cheveux raides, yeux rieurs. On la décrit généralement comme une femme bienveillante, joyeuse, loyale. Mais aussi très vivante, forte, avec un caractère bien trempé. Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle vit seule dans l'ancienne maison de ses parents, allée des Hortensias, à Plouin-Nouvelle-Anverne, à côté des Guilvinec. Elle n'a pas d'enfant, ne s'est jamais mariée, fréquente depuis quelques mois Michel, un médecin du coin. Et si sa vie amoureuse semble assez tranquille, sa vie professionnelle est trépidante. Agent d'assurance auprès des marins-pêcheurs du pays Bigoudin, elle parcourt la région, sa région, pour vendre des contrats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans son domaine, elle est forte, très forte même. Meilleur agent d'assurance de l'année 93 pour l'UAP, l'Union des assurances de Paris, elle dirige une équipe. Et Marie-Michel n'a pas sa langue dans sa poche. Aucun ennemi non plus. Elle connaît tout le monde. Et tout le monde la connaît. Alors, qui aurait bien pu vouloir sa mort, franchement ? Catherine, la sœur de Marie-Michel, a une petite idée sur la question, comme elle le confie à nos confrères de France 3 Région.
Bon, moi, je pense que si elle a été amenée ici, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle travaillait sur le Guilvinec. Je pense que la personne qui l'a tué, a voulu ramener, entre guillemets, les enquêteurs sur le Guilvinec. Mais bon, pour moi, c'est plus dans le domaine proche de Marie. C'est vraiment dans son entourage proche qu'il faudra qu'on trouvera sans doute la réponse.
Si pour Catherine Calvez, le suspect se cache parmi les proches de sa sœur, à cette étape de l'enquête, l'enjeu pour les gendarmes est d'abord d'établir le plus précisément possible la dernière journée de la victime. Qu'a-t-elle fait ? Où est-elle allée ? Et surtout, qui a-t-elle vu ? Les enquêteurs ne lésinent pas sur les moyens. La moitié de la population du coin est entendue. Connaissez-vous Marie-Michel Calvez ? Pensez-vous à quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal ? Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel les jours entourant la nuit du meurtre ? Les questions se succèdent, les réponses se ressemblent, les plus courtes possibles. On n'est pas très bavard dans la région. Avec les informations qu'ils récupèrent, les enquêteurs parviennent tout de même à reconstituer l'emploi du temps de la victime le jour de sa mort. Elle part de la maison de Michel, son compagnon, vers 8h du matin. Le jeune couple se donne rendez-vous à 20h, le soir même, pour aller récupérer deux tableaux que Michel Marie avait commandés à un peintre local. Comme d'habitude, en partant de chez son compagnon, elle retourne chez elle pour écouter son répondeur et passer quelques coups de fil. Les téléphones portables ne sont pas très répandus à l'époque. Aux alentours de midi, elle rejoint deux amis pour déjeuner à l'hôtel-restaurant du port du Guilvinec et prend ensuite un verre au bar, le Skipper, avec quelques connaissances. Elle en profite pour passer un coup de téléphone depuis le bureau du directeur de l'établissement. Puis elle s'arrête dans la boutique de fleurs d'une amie et en fin d'après-midi se rend à un rendez-vous professionnel avec un marin-pêcheur. Elle accepte un verre de vin blanc, mais refuse le second. « Non, je suis pressée, j'ai un rendez-vous », dit-elle. Un voisin aperçoit Marie-Michel rentrant chez elle. Il est 19h30 et jusque-là tout va bien. Tout semble normal. Et pourtant, c'est à partir de cet instant que les enquêteurs perdent sa trace. Marie-Michel ne retrouvera jamais son compagnon chez le peintre et personne ne reverra plus jamais la jeune femme vivant. Personne, sauf son assassin, bien sûr. Alors, que s'est-il passé pendant les 7 heures qui séparent la disparition de Marie-Michel jusqu'au moment où l'on retrouve son corps? Du mois de septembre 1996, quelques jours après l'identification du corps retrouvé dans la voiture calcinée, les gendarmes accompagnent Catherine Galvez dans la maison de sa sœur. Ils doivent récupérer des documents pour la déclaration de décès. À l'intérieur, tout semble normal. Pas de traces de sang ou de lutte apparente. La maison est rangée, nettoyée, comme d'habitude. Marie-Michel était une femme ordonnée. Tout semble donc normal, sauf un détail qui perturbe Catherine Galvez, comme elle le raconte dans l'émission intitulée « Non élucidée ».
Quand je suis rentrée dans la cuisine, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'était un tube de dentifrice entamé. Et le tube de dentifrice n'avait rien à faire là. Si ça avait été un tube neuf, bon, qu'elle est en revenant des courses, elle le pose sur le bahut, etc., elle oublie de le monter, bon, ok. Mais un tube entamé, non. Non, non. Qu'est-ce qu'un tube de dentifrice entamé fait dans une cuisine? Rien. Et moi, je me suis imaginé Marie interrompue dans sa toilette ou quelque chose et descendant avec son tube de dentifrice dans la main, comme ça. Et je me suis dit, c'est là que ça a dû se passer. Il y a quelque chose qui s'est passé là.
Le meurtre aurait-il pu avoir eu lieu ici, dans la maison de Marie-Michel, et non pas à l'endroit où on a retrouvé la voiture? les gendarmes commettent leur première erreur. Ils ne procèdent pas à une mise sous scellé de la maison de la victime. Non, pas d'analyse, pas de test ou d'inspection de la maison. Et sans certitude quant au lieu du crime, les enquêteurs se concentrent sur les coupables potentiels. Et le premier sur leur liste est évidemment Michel, le compagnon de la victime. Si ce médecin jouit d'une bonne réputation dans la région, son comportement lors de la nuit du meurtre pose question. D'abord, il ne s'alarme pas quand il ne voit pas arriver Marie-Michel, avec qui il avait pourtant rendez-vous à 20h. Il aurait pu passer voir si tout allait bien, après tout. Il habite à 5 minutes de chez sa compagne, mais non. D'ailleurs, il n'essaie même pas d'appeler chez elle alors que les heures passent. Lorsqu'il est entendu par les gendarmes, il déclare simplement s'être endormi vers 22h, pensant que Marie-Michel avait dû changer d'avis, voilà. Tout simple, ouais, mais pas très convaincant, tout ça. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de preuves directes le reliant au crime. Cette piste est donc progressivement abandonnée. Les gendarmes, tout comme la famille, restent persuadés que le ou les auteurs du crime appartiennent à un cercle relativement proche de la jeune femme. L'enquête s'articule donc essentiellement sur l'entourage de Marie-Michel. Mais aucun indice supplémentaire n'est trouvé. Aucun individu ne se distingue, aucun mobile n'apparaît. Passent les mois et les années, l'enquête s'éternise et s'enlise. Il faut attendre l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction en 1996, 2 ans après les faits donc, pour que certaines pistes émergent. Notamment celle concernant Max, un ancien ami d'enfance de Marie-Michel. Max travaille pour la Marine nationale. Il a 33 ans, il connaît la famille Calvez depuis longtemps. Taciturne, travailleur, pas du genre à se faire remarquer, même si des bruits courent sur la personnalité du jeune homme, comme l'explique Catherine.
Bon, il est assez agressif quand il a bu, hein. Et ça, je l'ai su après, il est aussi violent. Violent. Ça, je l'ai su par son ex-femme.
Cet homme à la personnalité trouble a un point commun avec les sœurs Calvez. Lui aussi a perdu sa mère alors qu'il était encore jeune. D'ailleurs, adolescent, il va pêcher avec le père des filles qui vivent juste en face de chez lui. Et en 1994, il habite toujours dans la même rue que Marie-Michel. D'ailleurs, ils se sont rapprochés, oui, après le divorce de Max. Certains d'ailleurs le croient amoureux d'elle. La rumeur prétend qu'il serait jaloux de la relation de Marie-Michel avec le médecin. Mais pour la jeune femme, c'est un ami, c'est clair, juste un ami. Au moment du drame, cet ami, juste un ami, est interrogé rapidement par les gendarmes dans le cadre de l'enquête de voisinage. Lui non plus n'a rien vu, ni rien entendu le soir où Marie-Michel a disparu. Son emploi du temps, ce soir-là, il a tondu la pelouse en face de chez la victime, puis il est rentré chez lui, télé, plateau, repas. À cette époque, Max ne montre pas de réaction particulière en apprenant la mort de son ami. Et il ne mentionne pas ses liens avec Marie-Michel. Et puis, étrangement, alors qu'il était censé porter le cercueil, il ne vient pas aux obsèques. Une absence qui ne passe pas inaperçue, notamment pour Catherine Calvez, toujours elle, la sœur, qui voit tout.
Moi, je me suis demandé s'il avait pas voulu justement éviter d'aller à l'enterrement. Parce qu'il devait porter le corps. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il supporte pas l'idée d'aller à l'enterrement.
Si le comportement de Max interroge dans la communauté, il n'engendre pas d'investigation particulière. Pendant les 2 premières années de l'enquête, il n'est pas inquiété. Mais en 96, un nouveau juge d'instruction récupère le dossier et décide de tout reprendre à zéro. Tout le monde est de nouveau entendu, y compris Max. Et pour le juge, l'enquête concernant le jeune homme n'a pas été assez poussée. Il ordonne donc son placement en garde à vue et une perquisition de son domicile. Nous sommes le 21 mai 1996, 2 ans après le meurtre. La perquisition ne donne rien, mais l'interrogatoire lui est troublant. D'abord, les gendarmes sont désarçonnés face à la sérénité de l'individu. L'un d'entre eux se souvient. Il était préparé pour nous affronter. Il a eu le temps, il nous attendait. Il était motivé et prêt pour affronter une garde à vue. Max confie pour la première fois avoir vu Marie-Michel rentrer chez elle ce soir-là. Mais les souvenirs sont confus. Il raconterait aller lui emprunter un outil de jardinage et avoir discuté un peu devant le garage de la jeune femme. Il lui propose un verre, mais elle refuse. Elle n'a pas le temps. Elle a rendez-vous avec son compagnon chez un peintre pour récupérer des tableaux. Il est donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ce qui fait de lui un suspect potentiel, d'autant qu'il n'avait jamais fait mention de ses échanges avec la victime. Fort de cette information qu'il pense cruciale, et alors que la nuit tombe, les gendarmes décident de le laisser se reposer un peu. Erreur. Le lendemain matin, à la reprise de l'interrogatoire, c'est un jeune homme très différent qu'il retrouve. Un jeune homme nerveux qui change une nouvelle fois de témoignage. Je l'ai vu garer sa voiture et je me suis arrêté pour lui parler d'une assurance que j'ai contractée. Je devais passer pour lui faire un chèque et tout ça durait 5 minutes, à peine, dit-il. Et alors qu'il est en train de s'expliquer, Max, qui souffre d'épilepsie, fait une crise. Un gendarme se rappelle lui avoir tenu le bras et entendu l'homme murmurer « J'ai pas voulu, j'ai pas voulu ». Puis il s'effondre. Il est hospitalisé dans la foulée. Et quand quelques jours plus tard, l'entretien reprend, c'est un homme serein et assuré que les gendarmes retrouvent. Là, il affirme s'être trompé, qu'il n'a pas vu Marie-Michel le soir du meurtre. Non, il a confondu les jours. La discussion dont il a parlé aux gendarmes la dernière fois. Non, c'était 3 jours plus tôt. Et Max ne demandera plus de cette version des faits. Privé d'éléments matériels qui prouveraient l'implication du jeune homme, les gendarmes sont contraints de le laisser partir. Car il est innocent, jusqu'à preuve du contraire. Retour à la case départ. L'enquête est de nouveau dans l'impasse. Mais Catherine Calvez, elle ne lâche rien. Et elle le fait savoir, un peu moins de 4 ans après les faits, en 98, devant les caméras de France 3 Iroise, elle propose une récompense à quiconque détiendrait des informations permettant de faire avancer l'enquête.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un vrai rebondissement qui a lieu dans une enquête judiciaire et c'est même exceptionnel en France. Une récompense est offerte pour retrouver un meurtrier. L'affaire se passe dans le Finistère. Il y a plus de 3 ans, une femme de 40 ans a été assassinée. La famille a donc décidé d'offrir une prime de 300 000 francs à toute personne qui amènera des éléments capables de faire finalement aboutir l'enquête. Willy Collin, Françoise Gauthier.
En sollicitant la population, la famille Calvez veut faire éclater la vérité sur le meurtre de Marie-Michel Calvez, retrouvée carbonisée dans le coffre de sa voiture sur la commune du Guilvinec. Aujourd'hui, l'enquête est au point mort. Pour les proches de la victime, cette situation n'est plus supportable.
L'important pour nous, c'est vraiment de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité. Ça fait 3 ans et demi qu'on vit une épreuve épouvantable et... Pour nous, c'est vraiment l'essentiel, savoir ce qui s'est passé.
La gendarmerie de Quimper a mis à la disposition de la population une ligne téléphonique 24 heures sur 24 pour récolter les informations. Elle s'engage sur la confidentialité et la sécurité des témoins.
L'enjeu est clair, faire surgir de nouvelles pistes. D'ailleurs, la gendarmerie reçoit des centaines d'appels, sans qu'aucun ne se révèle particulièrement concluant. Pour Jean-Claude Gourve, l'ancien avocat de la famille Calvez, c'est aussi parce que les gens du coin refusent de parler.
Le ou les personnes qui sont les auteurs de ces faits ne sont pas très éloignés de la région. Ils vivent vraisemblablement. La population sait un certain nombre de choses qui, portées à la connaissance des gendarmes, permettraient la solution de cette affaire.
Parmi les témoins qu'on a entendus, tous n'ont pas dit ce qu'ils savaient.
Il est patent que des gens qui ont déjà été entendus n'ont pas dit tout ce qu'ils savaient.
Si l'enquête est au point mort, l'instruction, elle, est toujours ouverte. Et en 98, au moment de l'annonce de la prime par la famille Calvez, une perquisition est ordonnée au domicile de la victime, 4 ans après les faits. C'est peu dire que cette décision aurait pu être prise beaucoup plus tôt. Et du reste, les recherches qu'on effectue alors dans la maison livrent de nouveaux indices. Dans la cave, sont retrouvés un cendrier rempli de mégots, des piles de tissus et de torchons qui ressemblent étrangement aux résidus de tissus présents dans la voiture incendiée, des cales de bois rectangulaires identiques à celles retrouvées dans l'incendie, un jerrycan d'essence, et puis le sol de la cave est couvert de grosses traces d'eau, comme s'il avait été lavé minutieusement. Les gendarmes découvrent également un tissu couvert de sang. Les analyses révèlent un ADN masculin. Mais appartenant à qui, exactement? Aucun individu n'est identifié. En tout cas, il est fort probable que Marie-Michel a été tuée ici, dans sa maison, celle de sa famille, depuis des générations. Catherine Calvez avait raison. Si le bâtiment avait été mis sous scellé immédiatement après les faits, peut-être que d'autres éléments, d'autres indices auraient pu être retrouvés. Mais le temps a fait son œuvre, emportant certainement avec lui des fragments de vérité. Malgré les années qui continuent de défiler, comme un affront à sa peine, Catherine Calvez persévère, s'acharne. En 2014, l'avocat de la famille le confirme à nos confrères de France 3 Bretagne.
20 ans après le meurtre de cette démarcheuse en assurance, aucune hypothèse n'a abouti, mais l'instruction n'est pas close. Les proches de Marie-Michel sont persuadés que meurtrier et complice finiront par avouer pour soulager leur conscience, sans compter les progrès de la police scientifique.
Ce sera peut-être effectivement un prélèvement et l'ADN qui sera révélé, qui sera ce petit clic, ou ce petit détail qui va faire qu'on trouvera le ou les auteurs. Mais aujourd'hui, l'esprit n'est pas au renoncement.
Espérant relancer l'enquête, la famille a renouvelé la prime de 50 000 euros pour quiconque fournira des éléments déterminants.
Le non-lieu n'a pas été demandé par le parquet dans l'affaire Calvez. Il est donc toujours possible que ce dossier aboutisse un jour ou l'autre sur une mise en examen. Les avancées des techniques scientifiques constituent une bonne raison d'espérer. Et puis un jour, qui sait, quelqu'un pourrait se décider à parler. Le temps passant, le murmure d'un remords peut résonner plus fort. Mais dans tous les cas, Catherine Calvez ne renoncera pas. Pour elle, c'est un combat contre l'oubli, la résignation, le silence. Et elle le dit avec force et courage, « Je ne lâcherai jamais. Une partie de ma vie s'est arrêtée cette nuit-là. Se taire, c'est quelque part être complice, c'est admettre qu'on peut tuer sans conséquence. C'est ça. » Catherine Calvez ne le permettra pas.
You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true.
Similar over the years, the way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know.
And I love you.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Marie-Michèle Calvez. Notre invité Yves Bordenave, bonjour.
Bonjour.
Journaliste judiciaire au Monde, vous avez publié une enquête sur cette affaire-là, justement, intitulée 1994, meurtre mystérieux en pays bigoudin, et que vous avez publié pendant l'été 2018 dans les pages du journal Le Monde. D'abord, pourquoi ce choix de l'affaire Calvez? Il y a tout un tas d'histoires qui traînent. Vous avez choisi celle-là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire-là?
Moi, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est que c'était une histoire qui était un des cold cases qui était peu connu, qui avait été peu traité par la presse nationale. Il avait été traité par Ouest France et par le Télégramme surtout. Et donc, la première chose qui m'a intéressé, c'était ça. Et puis, comment dire, c'est quand même une affaire qui était entourée d'un mystère particulièrement épais. La victime est un personnage très intéressant, une jeune femme de 40 ans, très connue dans le monde des pêcheurs, en plus qui est un monde, comment dire, très très fermé,
bien dans sa peau, socialement
parfaitement. Et cette jeune femme, voilà, est complètement bien dans sa peau. Elle connaît très bien ce monde. Elle leur vend des assurances. Elle va dans les bistrots, elle va dans les restaurants. C'est une jeune célibataire qui dérange un peu même l'entourage, le camp d'Iraton, etc. Donc c'est un petit peu à la fois le milieu des marins pêcheurs et le milieu de cette femme confrontée à ce milieu fermé des marins pêcheurs qui m'avait particulièrement intéressé.
Donc, crime non élucidé, vous avez une intime conviction, une hypothèse, vous penchez vers quel scénario? Parce qu'on en est là, à émettre des hypothèses, puisqu'on n'a pas de vérité.
En vérité, le scénario qui semble... le scénario qui semble le plus probable, c'est le...
Oui, on va dire comme ça.
Celui que vous avez évoqué dans votre récit, à la fin, à savoir un crime de voisinage, qui n'est peut-être pas un crime, un assassinat au sens pénal du terme, c'est-à-dire un meurtre organisé, mais qu'à la suite d'une dispute de voisinage ou autre, une sorte d'accident de dispute, si je puis dire, provoque la mort sans intention de la donner. Moi, je penche plutôt vers cette hypothèse-là, et d'une personne, je partage tout à fait les points de vue qui sont énoncés par les proches de Catherine Calvez et par Catherine Calvez elle-même, donc la sœur de Marie-Michel, une personne qui est proche de
Max.
Qui est proche de
Max
de,
ou voilà, pas bah, on peut le dire.
Celui qui est voisin.
C'est une hypothèse, voilà, on ne dit pas qu'il a tout.
D'autant qu'il a... Il a un profil un peu spécial. C'est un garçon. Je parle de mémoire, donc je peux dire une ânerie. C'est un garçon qui a 5-6 ans de moins que Marie-Michel. Ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Ils se côtoient. Ils habitent à 100 mètres l'un de l'autre. Il semble que le Max en question avait des visions, des intentions. En tout cas, c'est ce qu'il dit à la femme avec laquelle il a divorcé. Ma prochaine épouse, ce sera Marie-Michel.
Oui, il a des vues sur elle, sauf qu'elle est prise. Voilà.
Il est attiré par Marie-Michel, laquelle l'estime aussi, mais elle l'estime comme un ami. Ils partagent la pizza du dimanche soir parce qu'on partage un peu d'ennui, un peu de solitude le dimanche en fin de journée. Ils sont habitués à se rencontrer et peut-être qu'il s'est senti un petit peu abandonné, qu'il en voulait un peu plus qu'elle voulait lui en donner. Enfin bon, bref. En tout cas, et ceci est d'autant plus intéressant que c'est un personnage sur lequel l'enquête l'a complètement raté, quoi.
Ouais.
Les gendarmes ne s'y intéressent que 3 ans après.
Ce serait ce qu'on ne doit plus appeler un crime passionnel, mais un féminicide, pour le coup.
Oui, on appellerait ça un féminicide, sachant que c'est peut-être pas un assassinat au sens pénal du terme.
Ouais.
Sachant que c'est une dispute, parce que dans un premier temps, il dit « j'ai pas vu Marie-Michel ce soir-là ». Ensuite, il revient en disant « ah mais si, au fait, je l'ai vu, je devais lui parler d'une assurance, donc je suis allé en face chez elle quand j'ai vu la voiture arriver ». Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas combien dure la rencontre, c'est avant qu'elle aille avant qu'elle soit censée aller au rendez-vous chez son ami, le médecin. Et là, il se passe quelque chose. Ils se disputent pour une histoire d'assurance. Ils se disputent parce que peut-être il la demande en mariage, peut-être qu'elle veut pas. Enfin, puisqu'il fait dire qu'il l'a demandé en mariage, etc. Et donc, on ne sait pas exactement les choses. Mais enfin, en tout cas, il se passe à ce moment-là dans la maison. Un incident qui peut avoir, dont d'accord. on peut penser qu'il peut être à l'origine de l'homicide.
Alors, mais si, admettons, un incident avec une, on donne la mort sans la volonté de la donner. Enfin, après, il y a la mise en scène de la voiture qui brûle.
Alors ensuite,
là, on arrive dans la dimension du crime.
Là, pour le coup, là, il y a une dissimulation. Si c'est le cas, il y a une dissimulation extraordinaire. En tout cas, on a deux, trois certitudes sur ce scénario. C'est que lorsque la voiture, le corps de Marie-Michel est transporté à l'endroit où il brûle, il y a deux voitures et il y a deux hommes, puisqu'il y a une témoin qui habitait juste en face le chemin départemental où le corps est brûlé, qui s'est réveillée dans la nuit parce qu'elle a entendu des véhicules et elle entend deux voix d'hommes. Elle témoigne ça, c'est sur des procès-verbaux, cette personne est morte maintenant, mais enfin, elle en est sûre et le témoignage est sûr. Donc il y a forcément deux hommes et deux voitures, la voiture qui va brûler ensuite et la voiture avec laquelle elle repart. Et donc forcément, il y a une organisation derrière. Il y a un scénario qui est mis en place pour transporter le corps à l'endroit où il n'a pas été tué. Le corps est transporté. Oui. Et ensuite, il y a une organisation humaine avec au moins deux personnes, deux hommes, au dire de ce témoignage, qui vont organiser l'incendie de la voiture et essayer de faire disparaître le corps. Voilà.
Alors là, on est dans une dimension criminelle, pour le coup. Yves Bordelave, on se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté Gaëtan Roussel qui chante une chanson au titre de Circonstance. Est-ce que tu sais ? Ben, nous répondons pour l'instant.
Est-ce que tu sais ? 8 jours, ça fait 11 520 minutes à la seconde près. Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleuves et des fleuves, je peux pas te dire à la rivière près. Est-ce que tu sais qu'au bout des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes, je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais.
Yves Bordenave, parlons maintenant de l'enquête 27 ans jour pour jour, après l'événement. Hein. Alors une enquête bizarrement menée, moi je retiens comme tout le monde, 2 anomalies, pas de perquisition au domicile de la victime juste après les faits, et comment expliquer également l'absence de placement sous scellé de la maison de la victime. Enfin, ça paraît complètement fou qu'il ait fallu attendre l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction en 96 pour une procédure normale.
Alors c'est une enquête effectivement qui est en dessous de tout. D'abord le procureur de la République à l'époque qui oblige les gendarmes à se concentrer sur un suspect, en l'occurrence celui qui est le compagnon, le médecin qui est le compagnon de Marie-Michel à ce moment-là, il est, comment dire, obsédé, si je peux employer ce terme, il est obsédé par la possibilité de culpabilité de ce personnage. C'est un médecin, un notable, peut-être se dit-il, tiens, ça ferait une belle histoire, un notable qui tue...
On va épingler un notable.
Voilà, qui ouais. tue son amant. Et donc, pendant plusieurs semaines, il le place en garde à vue, la garde à vue se prolonge pendant plus de 48 heures, et pendant plusieurs semaines, en fait, il demande aux enquêteurs gendarmes de se concentrer sur ce médecin. Et donc, durant les premiers jours, et tout le monde sait que dans un meurtre, ce qui compte, ce sont les premières investigations, les gendarmes se concentrent donc sur ce suspect, et effectivement, ils en négligent la mise sous scellé de la maison, ils en négligent le voisinage, ils négligent absolument tout ce qui aurait dû être établi, quadrillé, dans les premières heures, et qui aurait peut-être permis de suivre d'autres pistes.
D'ailleurs, je crois que Michel Alice, qui faisait partie des enquêteurs, ne veut plus s'exprimer sur ce dossier.
Moi, lorsque j'avais fait l'enquête, je l'avais rencontré à Lorient, puisqu'il venait de prendre sa retraite, et il m'avait raconté, lui, il était arrivé sur le lieu où on avait retrouvé le corps, à 6h du matin. C'est-à-dire que c'est un des tout premiers enquêteurs, il était à la SR de Rennes à l'époque, et c'est l'un des tout premiers enquêteurs qui arrive là-dessus. Et il conservait, donc je l'ai revu il y a 3 ans, au moment de mon enquête, et plus de 25 ans après, il avait vis-à-vis de cette enquête une espèce de rancœur, quoi. Il s'en voulait vraiment d'être passé à côté.
Échec, quoi.
Et il expliquait, voilà, il avait un sentiment d'échec. Il m'avait dit, ça me quitte pas de, même encore alors que je suis à la retraite et que je pourrais passer à autre chose, ça me quitte pas de la tête. Et effectivement, il considère qu'ils ont fait des erreurs, même s'ils le formulent pas de cette manière, mais qu'au début de l'enquête, ils se sont ratés, ils sont passés à côté de tout un tas d'indices qu'ils auraient dû exploiter, de pistes qu'ils auraient dû suivre. Et il a fallu attendre l'arrivée de ce nouveau juge pour, c'était 3 ans après, si mes souvenirs sont bons.
96.
Deux ans après les faits, pour suivre ces pistes qui n'avaient pas été suivies dans les jours qui ont suivi la découverte du corps.
Un mot quand même de Catherine Calvez, des combats de Catherine Calvez, que vous avez rencontré évidemment.
Catherine Calvez, elle porte cette affaire depuis, comme elle dit, depuis la disparition, depuis la mort de ma sœur, j'ai perdu une partie de moi-même. Ouais. Et donc depuis, elle porte cette affaire et il faut le reconnaître, elle la porte toute seule. Parce que bon, il y a quelques associations, il y a des gens qui l'aident, etc. Mais c'est elle qui, devant une justice qui souvent a traîné les pieds, qui a tôt fait d'enterrer ce dossier à Quimper, il a été réouvert il y a 3 ans. Je pense que c'est un peu à la faveur de l'article qui avait été publié par Le Monde.
Dans Le Monde, oui, en 2018.
Mais pendant 20 ans, 25 ans, ce dossier a été enterré et il n'y a eu que l'énergie de Catherine Calvez pour le réveiller, pour témoigner et pour essayer de relancer cette affaire. Et moi, lorsque j'y étais allé, elle m'avait bien évidemment ouvert grand les portes. J'avais pu accéder au dossier et je crois que sans elle, effectivement, cette affaire, plus personne n'en parlerait.
Et une motivation jusqu'à mettre en place une prime pour obtenir des informations. C'est pas courant, ça nous renvoie au vieux film noir et blanc, ça, la prime. Je sais pas si c'est vraiment efficace, parce que c'est la porte ouverte aussi à n'importe quoi. Hein. Comment ça s'est passé là?
Alors, je crois qu'elle avait eu l'autorisation de la justice, du parquet, ce qui est rare.
Ouais, c'est rare. Hein.
Et je me souviens plus, je crois qu'elle était dans le montant, on était en francs encore à l'époque. Je sais plus si elle était pas dans le montant de 300 000 francs. Peut-être même ma mémoire peut me tromper, mais il me semble que c'était ça. Alors, ça avait suscité quelques... comment dire?
Remous.
C'est le moins qu'on puisse dire. À minima, une controverse, on va dire. Et donc, mais elle s'était engagée là. Il y avait eu tout un tas de renseignements qui n'ont pas permis d'aller. Mais effectivement, c'est rare dans ce pays. C'est très, très rare d'accorder une prime comme ça, surtout quand ça vient d'un particulier, d'accorder une prime à qui porterait un renseignement. Et c'est dire la volonté,
aussi, hein.
La détermination de Mme Calvez.
Oui, mais c'est un aveu d'échec aussi pour les enquêteurs.
Et c'est un aveu d'échec pour les enquêteurs, pour la justice et pour les enquêteurs, en l'occurrence là, c'était les gendarmes.
On en est où, au fait, de l'affaire aujourd'hui, là, au moment où on parle? Donc le dossier n'est pas fermé, hein, on est d'accord, l'instruction est en cours.
Il y a une juge qui est arrivée, qui s'est saisie du dossier il y a 2 ans, qui a relancé un certain nombre d'investigations. Je ne sais pas s'il y a des résultats, je ne sais pas comment ça a avancé au cours des derniers mois, mais en tout cas, on va dire que le dossier a été dépoussiéré, il a été remonté de la pile, il est sorti de la cave du palais de justice, et la juge en question a relancé un certain nombre d'investigations, autant qu'on puisse en relancer 27 ans après les faits. Quoi.
Oui, enfin, ça ouvre la
Alors,
porte
quand
même.
Alors il y a l'ADN maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque.
Ça, le fait de ne pas refermer un dossier ouvre la porte à des suppléments d'informations éventuelles, qui
Absolument.
Pourraient relancer l'enquête.
Absolument, avec en plus des moyens aujourd'hui scientifiques qui peut-être, sait-on jamais, voir des témoignages oubliés qui peut-être pourraient d'une part relancer l'affaire, mais en même temps, pourquoi pas trouver des pistes qui conduiraient aux assassins ou aux assassins.
Vous, par exemple, en tant que journaliste, vous avez enquêté sur cette affaire-là, vous avez fait une série il n'y a pas très longtemps, 3 ans, vous n'auriez pas envie d'enquêter, de repartir, voir ce qui pourrait se passer ?
On pourrait toujours, si, bien sûr, en partant du dossier, si, ça m'intéresserait. Mais encore faut-il avoir des éléments d'information sur l'enquête en cours. Il se trouve que
Mais avoir quelques billes, quoi, comme on dit entre journalistes.
Ouais, et il se trouve que pour le moment, les sources sont pas très, très bavardes.
Ça bouge pas, quoi.
Et voilà, quoi, l'enquête se fait un peu à l'abri des médias. Je crois que la justice n'a pas trop envie de parler, peut-être parce que c'est un échec pour eux. Mmh. Mais effectivement, ce serait un travail au long cours, très intéressant, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors, le fait divers, le crime non élucidé, il crée un malaise. Alors qu'il crée un malaise pour les proches, ça on comprend parfaitement, parce que ça leur empêche de faire le deuil, comme vous dites. Et puis c'est normal qu'ils aient envie de connaître la vérité, que pour les enquêteurs ce soit difficile à admettre, on le comprend, la justice, on le comprend. Mais l'humain, enfin nous, on est mal à l'aise quand un crime n'est pas élucidé. Et pourtant, on devrait intégrer l'idée qu'on n'a pas toujours réponse à tout, qu'il faut savoir. Mais ça met mal à l'aise, un crime non élucidé.
Oui, ça met mal à l'aise. Bon, d'abord pour les proches, mais en plus, il y a un phénomène de curiosité tout à fait humaine, quoi. Ouais. Surtout quand dans un épais mystère, une personne qui se fait tuer, qui a aucune raison, il y a personne qui a de raison de se faire tuer, mais disons qu'il y a des gens qui ont des activités qui les exposent davantage à des risques. Mais dans le cas de Marie-Michel Calvez, il y a aucune raison que cette personne se fasse tuer, au contraire. Et effectivement, ça met mal à l'aise. Mais en plus, je pense qu'il y a, contrairement aux Anglo-Saxons, dans ce pays, on n'a pas la culture du cold case. Il y a pas, on a beaucoup de retard. Il y a des magistrats, un magistrat qui s'intéresse beaucoup à ça. Je pense à Jacques Dallès, qui est procureur général à Grenoble et qui s'intéresse au cold case. Le note souvent, il dit le cold case de la justice, ça intéresse pas. Voilà.
Bah oui, c'est peut-être ça le problème. Yves Bordenave. Merci infiniment d'avoir partagé vos souvenirs, vos analyses et de nous avoir donné vos précisions sur cette affaire. Merci. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Calvez, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.